notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Jade Lingard. Jade Lingard est journaliste chez Mediapart, spécialisée sur les questions écologiques, de justice sociale et environnementale. À rebours du dogme illusoire d'une objectivité parfaite des médias, elle défend une pratique journalistique engagée et rigoureuse et la recherche d'une autonomie de pensée à partir d'un point de vue forcément situé.
Comment trouver les bons mots sur le niveau de violence et de destruction qu'on est en train de vivre ?
Son travail de reportage et d'enquête sur les grands projets d'infrastructure ou sur les territoires en lutte met en lumière une écologie au sens plein par une approche systémique bien loin de la conception environnementaliste actuelle des grands médias.
C'est une écologie entendue dans un sens assez étroit, c'est-à-dire environnementaliste, sans faire le lien avec les questions d'inégalité de richesse, sans faire le lien avec le capitalisme, sans faire le lien avec le patriarcat, c'est-à-dire sans faire le lien avec les systèmes de pouvoir et les systèmes de domination.
Nous avons parlé du traitement médiatique de l'écologie, de l'importance de développer une analyse intersectionnelle des systèmes de pouvoir, de ses réserves vis-à-vis de la notion d'effondrement et de l'écoféminisme comme source d'inspiration et d'émotion. Jade Lingard, bonjour.
Bonjour.
Tu es journaliste chez Mediapart depuis le début de Mediapart et spécialisée sur les questions d'écologie, de justice environnementale et sociale aussi. Je voulais d'abord savoir quel parcours t'a conduit à te spécialiser sur ces questions-là.
Alors, en fait, moi, quand j'ai commencé à travailler à Mediapart, j'étais déjà journaliste depuis une dizaine d'années et sur d'autres sujets qui étaient, en fait, les dernières années avant Mediapart, beaucoup autour des mouvements altermondialistes et des questions posées par les mouvements altermondialistes, c'est-à-dire tout ce qui était critique de la mondialisation, de la déréglementation du commerce international. Donc, à l'époque, le grand ennemi, si je puis dire, c'était l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. C'était le processus des G8, G7, G20, avec toute une problématique aussi sur la critique du néocolonialisme à l'œuvre dans tous ces grands traités commerciaux internationaux, et puis déjà aussi la confrontation à la violence d'État et à la forte répression par l'État qui s'était manifestée pendant l'anti-G8 de Gênes en 2001, qui avait été un moment de très grande violence de la police et des gendarmes italiens à l'encontre des militantes et des militants. Et c'est vrai que moi, à l'époque, je m'étais rendue là, j'avais manifesté à Gênes, et en tant que petite blanche bourgeoise parisienne, j'ai découvert ce jour-là, en fait, la violence d'État. Et j'avais jamais, en fait, vraiment pris conscience de ce que c'était une répression organisée d'État contre une population. Donc c'est vrai que ça a été, voilà, un moment politiquement qui a provoqué plein d'éveils pour moi. Et puis et l'écologie, en fait, est venue par le biais de cette imprégnation dans les mouvements anticapitalistes pour moi, parce que disons que intellectuellement et par ma formation, je m'intéressais pas du tout à l'écologie, mais vraiment pas du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que au début des années 2000, quand même dans ces mouvements-là dans les écrits des personnes qui les inspiraient, a commencé à apparaître la question du dérèglement climatique fortement, et cette question du climat. Considéré pas simplement du point de vue de la physiologie de l'atmosphère, enfin l'émission des gaz à effet de serre, mais qu'est-ce qui produit ces gaz à effet de serre? Ah bah c'est quand même un système économique particulier au service des plus riches et des plus privilégiés, m'a conduit en fait petit à petit à m'intéresser à l'écologie. Et en fait moi j'ai eu beaucoup de chance finalement, puisque c'est à ce moment-là que Mediapart s'est créé, que j'ai été invitée à y participer, et que comme c'était un journal nouveau avec pas beaucoup de gens, qu'on partait de rien, bah quand j'ai dit bah moi je voudrais travailler sur l'écologie, au départ, ils étaient assez réservés, les fondateurs de Mediapart, en tout cas le premier directeur de la rédaction de Mediapart, puisque à ce moment-là, eux, ils m'avaient embauché pour autre chose, qui était un suivi du monde intellectuel, de l'université, de l'enseignement supérieur, de la recherche, avec l'idée de travailler sur les conditions de production des savoirs. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup aussi à ce moment-là, parce que par ailleurs, je travaillais aux Inrecuptibles avant, et aux Inrecuptibles, j'avais beaucoup suivi le mouvement des intermittents du spectacle, des chercheurs et qui posaient vachement ces questions de qu'est-ce qu'on produit comme savoir. Et donc j'avais été embauchée pour autre chose, mais en fait et même eux-mêmes à l'époque pour Mediapart en 2007, c'est fin 2007 en fait que moi j'ai été recrutée. Et à ce moment-là, je me souviens, voilà, il y a une discussion que je suis souvent racontée, mais parce que je trouve c'est intéressant de voir comment les choses évoluent aussi très vite. Et mon futur directeur de rédaction me décrit un peu le projet de Mediapart et je lui dis c'est super intéressant, c'est génial, et qu'est-ce que vous avez prévu sur l'écologie? Et il me regarde et il me dit il est un peu provoque, il me dit ouais, alors moi fermer l'eau du robinet quand on se lave les dents, franchement j'ai vécu en Russie, j'ai vu la gabegie énergétique, alors j'y crois pas du tout, quoi, ces histoires de petites économies. Et en fait je me souviens, ça m'a choqué, parce que je lui ai dit mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas lancer un journal aujourd'hui et n'avoir rien prévu sur le climat, sur l'écologie, c'est pas possible. Alors il me regarde et il me dit non mais bon, si vous voulez faire des trucs ça sera possible. Et en fait on est passé de ça à maintenant où c'est à Mediapart, en tout cas où c'est un sujet qui est vraiment qui est très important pour le journal, qui est porté par la rédaction. On sera trois journalistes à plein temps à la rentrée sur ces sujets par rapport à une personne pendant des années, donc ça a progressé, mais donc ça a été progressif.
Parce que tu as eu une enfance assez urbaine, je crois.
Oui, ben c'est ça, tout à fait. Moi, j'ai grandi à Paris, dans le 15e arrondissement. Quand j'y repense, ça me paraît à la fois assez étrange et en même temps, je pense, très banal, en fait.
Je pense que j'ai eu à peu près le même genre d'enfance, quoi. Dans la ville, à Paris, entouré de plastique.
C'est ça, dans les années 70-80. Et c'est vrai qu'à l'époque, la question... Moi, mes parents n'étaient pas du tout militants, pas du tout écolos. Venaient de familles, tous deux, assez populaires. Et donc, étaient complètement dans la satisfaction de vivre dans un univers mécanisé, industrialisé, où tout était à la portée, tout était à notre portée.
Confort moderne.
Ouais, complètement, tout à fait, dans cette idée de confort moderne et je pense profondément d'association entre ce confort moderne et une forme de liberté. Qui était la liberté de pouvoir voyager, la liberté de pouvoir s'acheter plein de choses. Et moi, je me souviens notamment, ma mère ne travaillait pas pendant une partie de mon enfance, puis a travaillé comme secrétaire, donc secrétaire dans différentes boîtes. Et à un moment, une des boîtes pour lesquelles elle a travaillé, c'était une boîte qui faisait des relations publiques spécialisée dans l'agroalimentaire. Et donc, travaillant dans cette, c'est une toute petite boîte, et travaillant dans cette entreprise, parfois elle avait un peu des goodies. Et je me souviens, parce que j'y repensais après en me disant c'est fou quand même cette scène, qu'un jour elle est rentrée à la maison avec un sachet de salade en plastique. Donc c'était la marque Florette, je crois. Et elle est arrivée avec ça et elle nous a dit mais regardez, c'est extraordinaire. On n'a même plus besoin de laver la salade. Et toute la famille était admirative face à ce progrès, qu'on allait encore gagner ce temps-là et qu'on allait même directement manger la salade. Et en plus, elle était multicolore, donc c'était carrément cool. Et on allait pouvoir la manger sans la laver. Et donc, on était complètement là-dedans, quoi. Je pense que... encore maintenant, d'une certaine manière, quand je parle avec ma mère de ces sujets du climat, du changement climatique, elle est pas là dans le déni du tout, parce que c'est quelqu'un de elle s'intéresse à plein de choses, elle est très intelligente, elle entend, elle voit bien et tout, mais ce qui reste pour elle très difficile à accepter, c'est le lien qui peut exister entre son mode de vie, ce qu'elle fait elle, et ces questions de changement climatique, d'atteinte à la biodiversité, et notamment pendant des années, on a eu des discussions qui tombaient toujours dans des impasses sur la question du voyage en avion, parce que elle considérait que c'était sa liberté de femme venue d'une famille modeste qui avait gagné la possibilité de pouvoir, qui avait gagné l'accès. voilà, à une forme de confort bourgeois, voilà, qu'elle n'appelle jamais privilège, mais qu'elle une forme de confort bourgeois, enfin même si c'était voilà avec pas énormément d'argent, et que pour elle c'était indu. Et donc tout ça pour dire que finalement tout ça, c'est ce qui m'a aussi aidé à comprendre à quel point tout cet imaginaire des années 60, 70 et même encore en partie 80 dans lequel moi j'ai été élevée continue à infuser dans l'esprit de plein de gens de cette génération.
Et comment est-ce que tu définis ton rôle en tant que journaliste, et est-ce qu'on te fait le reproche d'être engagé, ou enfin le reproche, ou est-ce qu'on te le souligne en tout cas?
Alors moi je pense que précisément le rôle de la journaliste et du journaliste, c'est d'être engagé. Mais après, il faut s'entendre sur la définition qu'on donne à ce terme d'engagé. Parce que c'est sûr que quand tu apprends le travail journalistique dans les écoles de journalisme, bon, parce qu'en France, voilà, pour plein de raisons, il y a une formation comme ça qui est assez normée, en fait, de ce métier. Quand tu l'apprends, un des premiers trucs, un des canons de la profession qu'on essaie de transmettre, c'est l'idée que il y a quelque chose qui s'appelle l'objectivité, et il faut tendre à l'objectivité. Et une manière d'arriver à cette objectivité, c'est de donner la parole à tout le monde, au même niveau. Et que ainsi on pourrait montrer qu'en fait le monde est complexe. Et donc ça c'est une idéologie, enfin c'est une idéologie.
Ça c'est français, tu penses?
Non, je voudrais pas faire des grandes généralités de café du commerce parce que je sais pas forcément très bien. Je pense pas que ce soit spécifiquement français parce que finalement on trouve les mêmes biais de fausse objectivité dans plein de grands journaux internationaux. Je dirais peut-être que la différence de la France c'est que on a eu une histoire de journalisme où finalement, c'est assez curieux parce que on a à la fois donc ce dogme de l'objectivité qui est très fort, et en même temps on a des figures journalistiques très importantes en histoire du journalisme français. Alors évidemment la figure tutélaire un peu c'est Albert Londres, mais finalement il y a des gens derrière comme Joseph Kessel, bon, qui était écrivain mais qui était aussi journaliste, et puis il y a plein de figures comme ça. Bon, c'était quand même beaucoup des hommes parce que les femmes ont mis du temps à faire leur place dans ce métier, mais ce que je veux dire qui assumait complètement une énorme subjectivité, y compris dans des reportages internationaux dont après coup on se rendait compte qu'en fait c'était quand même très 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 fictionnalisé. Donc en même temps on a accepté, c'est ça qui est particulier, c'est que on a accepté en même temps au journalisme des figures, et il y a eu des très grandes, de fortes reconnaissances pour des figures comme ça très engagées, très subjectives, très dans l'écriture, très la figure de l'écrivain voyageur mais qui était aussi un peu journaliste machin, etc. Et en fait on a divisé. D'un côté, il y avait une sorte de, je pense, de partage un peu symbolique des rôles entre donc ce type de figures comme ça un peu fantasque ou en couleur, aventurier, tout ça. François, ils avaient toute une ribambelle comme ça de grands reporters internationaux au moment au fait de leur gloire dans les années 50-60. Et de l'autre côté, il y avait un peu la figure du journaliste d'agence très rigoureux, très factuel et machin. Et entre les deux, finalement, il n'y avait pas tellement d'espace. Quoi. Enfin, je pense qu'il y a peut-être quelque chose un peu de cet ordre qui s'est passé historiquement. Mais donc tout ça pour dire que c'est vrai que quand tu apprends ton métier comme journaliste encore aujourd'hui en France, on t'apprend l'objectivité. Et en fait, c'est terrible parce que pourtant on a maintenant des décennies de sciences sociales, de sociologie, d'anthropologie. Il y a évidemment eu tout le travail, si on prend une référence française, de Bourdieu sur la critique justement de la fausse objectivité, de la fausse neutralité. Qui naît de la mise en discussion de deux points de vue contradictoires. Mais on a aussi quand même toute la pensée du point de vue situé qui quand même offre plein de prises, justement, pour dire on peut avoir un point de vue. On a tous un point de vue situé, et ça n'empêche pas de faire un travail rigoureux de factualisation. Moi, c'est comme ça que je définirais ma position de journaliste, en tout cas mon travail de journaliste. J'ai un point de vue situé, c'est-à-dire j'ai un point de vue situé de femme occidentale privilégiée, en même temps avec de fortes convictions de l'importance de la justice sociale, de l'écologie, de l'antiracisme et Voilà, et la volonté de dénoncer les injustices. Ça, c'est mon point de vue situé de départ. Et donc, à partir de ce point de vue, m'intéresse à des enquêtes, à des sujets d'enquête. Alors, ça peut être, par exemple, là, si je repense à des choses sur lesquelles j'ai travaillé récemment, j'ai passé un certain temps à travailler sur la question des pollutions industrielles du bassin de Lac, qui est un gros site d'industrie de chimie fine dans le sud de la France, qui est un ancien site d'extraction gazière et qui s'est reconverti en activité industrielle chimique et qui émet toute une série de pollutions qui impactent les riverains et des travailleurs des usines, mais qui, pour plein de raisons, est encore cette pollution en partie sous le boisseau, c'est-à-dire en partie invisibilisée. Et donc, du coup, il y a un enjeu à rendre visible l'existence de cette pollution et ses impacts et à ce que ce soit pris en charge par les autorités. Simplement, quand tu fais ça, donc ça, c'est, je dirais, mon intention de départ, et qui en fait et aussi qui est nourrie par les gens que je rencontre sur place et qui me sollicitent, et qui, voilà, on est dans des formes de collaboration, en fait, finalement, avec les personnes qui sont nos sources. Mais ce que je veux dire, c'est que évidemment, une fois que je dis ça, moi, je voudrais dénoncer ces pollutions. Tout mon travail après, c'est d'aller contre, le maximum contre ce que je pense, pour être sûr, pour m'assurer que je réunis toutes les preuves possibles de l'existence. Donc, ça va être de ces rejets de produits plus ou moins toxiques. Donc, récupérer des documents, interroger les personnes qui sont pas d'accord, et recueillir les maximums d'informations. Et donc, ça, c'est hyper possible. Donc, moi, c'est quand je dis que j'assume d'être une journaliste engagée, je le suis dans ce double sens, c'est-à-dire avec des convictions qui m'animent, parce que je pense que on fait pas des articles juste comme ça. Il faut qu'ils servent à. En tout cas, ils entrent nécessairement, qu'on le veuille ou non, dans une discussion publique. Ils nourrissent, qu'on le veuille ou non, les discussions dans l'espace public, et que à partir de ce moment-là, il faut avoir la responsabilité d'avoir en tête les conséquences potentielles que peuvent avoir nos articles, nos enquêtes et nos révélations quand il y en a. Et que c'est pour ça que c'est dans ce sens-là que, pour moi, il y a une forme d'engagement, c'est-à-dire on fait pas n'importe quel article à n'importe quel moment, et c'est pour ça que, par exemple, je sais pas, au moment de l'expulsion de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes l'année dernière, il fallait au maximum raconter. Enfin, moi, il me semble, il fallait au maximum raconter. C'était quoi l'enjeu de la ZAD? Pourquoi est-ce que les gens étaient là? Qu'est-ce qu'ils voulaient défendre? Comment se comportait la police? Les violences policières, etc. Parce que c'était eux qui s'en prenaient plein la gueule à ce moment-là. C'est dans ce sens-là. Mais après, l'engagement, c'est pour ça que c'est à plusieurs étages. En fait, l'engagement, c'est aussi l'engagement à la plus grande rigueur possible dans la factualisation des choses. Et le problème, c'est pour ça que moi j'ai mis longtemps à un peu assumer publiquement cette notion de d'engagement en journalisme, parce que le problème, c'est que quand tu commences à utiliser ce terme, il est tellement il est tellement connoté, et puis il est tellement loin finalement de ces canons partagés par la profession, très vite t'es mise dans une catégorie et était associé à du militantisme, qui n'est pas exactement la même chose. Et moi, je pense que le militantisme est quelque chose de très important, et heureusement qu'il y a des militantes et des militants dans ce pays, et donc c'est pas du tout pour les déprécier, mais qu'en revanche, c'est pas la même chose, quoi. Parce que dans le journalisme, t'as quand même... dans le journalisme est essentielle la recherche d'une autonomie de pensée. Donc c'est pour ça, ça peut paraître contradictoire, c'est plutôt que c'est paradoxal à mon avis, c'est-à-dire il faut tenir ensemble cette autonomie de pensée, que même si t'es a priori hyper d'accord avec quelqu'un, si tu te rends compte que la personne qui te parle exagère, voire invente ou se trompe, se fourvoie, ça arrive souvent, quelqu'un qui est super en colère contre une situation, il peut se fourvoyer dans l'analyse de cette situation, et ben toi, là où t'es journaliste, c'est que tu dois être capable de repérer ça, et sans pour autant remettre en cause le bien fondé du combat de la personne, être capable de dire non mais ça moi je peux pas l'écrire parce que ça j'ai pas la preuve de ça. Et donc le problème, c'est que comme on est dans un moment qui de nouveau est très clivé sur ces questions de violence policière, d'action réelle pour le climat, de rapport à l'État, de qu'est-ce que l'intérêt général et tout ça, et ben quand tu assumes une position comme ça, un peu d'engagement, le risque c'est que tu vois ta parole soit dépréciée. Parce que toi, de toute façon, évidemment, forcément, t'es pas d'accord, ou voilà. Donc il y a cette difficulté là. Mais moi, au fond, maintenant, Enfin, je sais pas, mes réflexions me conduisent à plutôt assumer ça parce que de plus en plus, je pense que cette idéologie l'objectivité est hyper problématique. Et donc, il faut la titiller, quoi.
Surtout que, enfin, c'est pas parce qu'on clame qu'on tend vers la neutralité qu'on le fait vraiment. Et dans le contexte de dans le paysage médiatique français actuel, c'est quand même, c'est pas assez problématique, quoi.
Ben c'est très problématique, c'est-à-dire, je sais pas, juste ces derniers mois, la couverture du mouvement des Gilets jaunes, par exemple, de ce point de vue-là, je trouve, elle est très, comment dire, elle doit être riche d'enseignements, quoi. En particulier pour les journalistes, parce que, alors après, c'est ça qu'il faut faire toujours attention, il y a plein de journalistes différents, il y a plein de médias différents, et au sein d'un même média, t'as des pratiques qui sont différentes. Donc moi, j'essaie de faire toujours hyper attention à pas mettre tout le monde dans le même sac, parce qu'en fait, on dit des choses très injustes, mais c'est vrai que le temps que, globalement, les grands médias, regardés par le plus de gens, ont mis à parler des violences policières, à montrer les violences policières et à documenter le déferlement, mais inédit historiquement quand même, de violences qui s'est abattue sur les gens. Enfin là, peut-être que des gens vont penser que j'exagère, mais quand on regarde en termes de chiffres, il y a un collectif qui travaille sur les violences de la police, qui a mis en évidence, qui a repris tous les nombres de blessés en fait en manifestation.
Avec David Dufresne.
Alors bon, il y a David Dufresne, le journaliste David Dufresne qui a recensé ça, mais je pensais pas spécifiquement à lui là sur cet exemple-là. Je pensais à un collectif qui a recensé historiquement depuis 20 ans tous les blessés en manifestation par la police, et qui montre très bien qu'en 6 mois de mouvement des Gilets jaunes sous Macron, il y a eu plus de blessés par la police en manifestation que dans les 20 années précédentes. C'est ce niveau-là de rapport. Et ce niveau-là de rapport, il n'est pas apparu dans ces grands médias. Donc, il y a eu ce travail plus que salutaire de David Dufresne, qui a trouvé en plus, avec son génie de l'intervention publique, le moyen d'interpeller avec des messages très courts, répétés sur Twitter, etc. C'était une super idée pour faire exister ces questions. Mais si tu veux, pour l'immense... Bah voilà, l'immense majorité des Français, Françaises qui sont pas sur Twitter, qui suivent pas ces trucs-là, etc. Je veux dire, une large partie d'entre eux, ils sont passés complètement à côté, par exemple, de la violence.
Mais ils reçoivent pas l'information, en fait.
Mais non. Donc ça va, je veux dire ça dans ton sens. C'est-à-dire, oui, évidemment, il y a une très grosse difficulté. Après, si tu veux, moi, il me semble aussi que, face à vraiment à ce problème structurel, systémique de comment les médias racontent la société, à quel point ils passent à côté, à quel point ils jouent le jeu du pouvoir et du discours du pouvoir sur une société, je trouve que quand même, depuis quelques années, il y a multiplication d'apparitions de médias alternatifs. Grâce au numérique, quoi, en partie, qui fait que, certes, ces grands médias sont globalement très soumis au discours du pouvoir, même sans s'en rendre compte, ce qui est une difficulté, mais que t'as quand même plein d'alternatives maintenant et qui font.
Mais est-ce que c'est pas toujours les mêmes personnes qui consultent ces alternatives ?
Non, mais c'est justement, c'est pour ça que c'est pas, comment dire, que la réponse n'est pas suffisante. Puisque évidemment, par définition, ces médias alternatifs, ils sont plutôt lus, pratiqués et regardés par des gens déjà engagés. Après, je pense qu'il y a pas, malheureusement de solution miracle, puisque c'est pour des raisons systémiques et structurelles que ces grands médias ne rendent pas compte. Que ce soit les violences policières sur les gilets jaunes, mais que ce soit
sur la politique économique ou
oui c'est ça, que ce soit je sais pas les effets désastreux de la réforme du chômage qui vient d'être votée, que ce soit les niveaux de pollution en ville, les atteintes sanitaires à la pollution, même si maintenant quand même ça sort un peu plus, mais ils ont mis énormément de temps, c'est pour des raisons hyper profondes. Donc ça je crois pas tellement à la possibilité d'une auto-réforme, tu vois, de ces médias en tant que tels. Donc oui, c'est limiter la réponse des médias alternatifs, mais au moins ça existe. Et puis malgré tout, ça, tu vois, ce qui, enfin, il me semble, hein, ce qui est important, c'est que ça constitue un espace, un autre espace public où il y a des informations, où il y a des discussions, il y a des gens qui interviennent. Ça fait que, par exemple, pour des jeunes, des étudiantes, les étudiants, moi, je vois, j'en rencontre très souvent et qui, eux, par exemple, ils regardent pas la télé, ils s'informent parce qu'ils trouvent sur Internet pour beaucoup. Et donc aussi en partie par ces trucs-là. Donc finalement, c'est pas que les militants hyper convaincus. Je pense qu'il y a un cercle qui s'élargit au fur et à mesure.
Et sur les questions écologiques, comment est-ce que tu dirais que le traitement médiatique a évolué depuis ces dernières années? Enfin, au-delà du fait que c'est beaucoup plus présent, est-ce que tu penses qu'il y a eu une prise de conscience profonde?
Alors, sur les questions d'écologie, il me semble que la situation est intéressante parce que plein de choses sont en train de bouger, j'ai l'impression. C'est-à-dire que par rapport à il y a une dizaine d'années ou même il y a une vingtaine d'années, il y a l'occurrence des questions de climat, de changement climatique. Bon, là, c'est évident depuis un an. Voilà, il y a une explosion du nombre de sujets dans les médias sur le changement, les dérèglements climatiques, mais aussi les questions de pollution de l'air. Il y a quand même beaucoup plus de choses qu'avant. Ce qu'on appelle l'écologie au sens environnementaliste du terme, c'est plus présent. Ok, donc ça c'est moi je pense que c'est quand même une bonne chose. Le problème, enfin il y a plusieurs problèmes, mais d'abord t'es jamais sûr que ce soit acquis pour longtemps. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait quand tu regardes un peu en histoire des médias, il y a notamment un chercheur. Jean-Baptiste Combi, qui est sociologue des médias, voilà, et qui a fait un livre là-dessus qui est très intéressant, où il montre en fait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas un écologique turn des médias aujourd'hui. En fait, précédemment, il y a eu déjà des phases avec une arrivée, tout d'un coup, une forte occurrence, un pic de sujets sur les questions d'écologie. Après, ça redescend, ça revient, ça redescend. Donc, la première interrogation, bon... Est-ce que ça va durer cette fois-ci? Et puis surtout, le problème principal de mon point de vue, c'est que c'est une écologie entendue dans un sens assez étroit, c'est-à-dire environnementaliste, sans faire le lien avec les questions d'inégalité de richesse, sans faire le lien avec le capitalisme, sans faire le lien avec le patriarcat, c'est-à-dire sans faire le lien avec les systèmes de pouvoir et les systèmes de domination. Or, l'écologie au sens plein du terme, et par exemple il y a un petit livre de Félix Guattari sur les trois écologies où il explique très bien comment en fait l'écologie ça peut pas être juste la défense de la nature entendue comme quelque chose d'extérieur, mais c'est un système de relations entre les humains, donc c'est quelque chose qui essaie de se détacher le plus possible des dominations, et c'est aussi une transformation personnelle dans son rapport au monde et aux autres. Donc c'est considérer que on fait partie du monde et non pas qu'on ait une civilisation humaine en dehors du monde qui peut utiliser le monde comme des ressources pour ses productions, ses consommations, la satisfaction de ses besoins. Donc c'est quand même un changement complet de vision du sens de l'existence des humains sur Terre. Et évidemment, c'est clairement pas du tout comme ça qu'est abordée l'écologie dans les médias. Et donc, alors on va dire, c'est normal, les médias, ils font des reportages, des enquêtes, des documentaires, et pas de la pensée philosophique. On est d'accord, il s'agit pas de faire des cours de Collège de France. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que du coup, le type de sujet qui est présenté, c'est plutôt sur les conséquences que sur les causes du problème. Donc c'est plutôt sur les conséquences de la pollution quand il y en a, que sur comment ça se fait que Total continue à investir autant d'argent dans la recherche pétrolière, je veux dire, contre toutes les informations et les connaissances qu'on a sur ce qu'on aurait besoin de développer aujourd'hui dans notre société. Il y a mille autres exemples. Donc, c'est sur les conséquences. Donc, du coup, est-ce que tu demandes, est-ce que c'est une forme de conscientisation? Moi, je crois pas, parce que est-ce que ça aide vraiment le public à prendre conscience du problème systémique auquel on est confronté? Je pense pas. De ce point de vue-là, et donc moi, ce que je ne sais pas si je le regrette, mais en tout cas, ce vers quoi il faudrait tendre, ce serait une approche beaucoup plus systémique, mais aussi du coup beaucoup plus contestataire en fait, parce que l'écologie, elle est dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, elle est indissociable d'une contestation de la manière dont l'économie est organisée, de la manière dont les décisions politiques sont prises. Par exemple, enfin un exemple d'actualité récent, le CETA et les accords de libre-échange sont totalement contradictoires avec tous les objectifs de véritable transition écologique, c'est-à-dire relocalisation de l'activité, bannissement des produits toxiques. Encouragement le plus possible à des économies sociales et solidaires et locales et etc. Cette connaissance là n'est pas simplement dire ça, c'est pas simplement manifester d'un engagement, ah non mais elle c'est une anticapitaliste qui est contre le libre-échange, c'est vraiment le reflet de ce qu'on sait aujourd'hui problèmes posés par le libre-échange, plus le fait que ça peut doter des entreprises internationales de la possibilité juridique de poursuivre des États qui prennent des décisions qui vont contre l'intérêt direct de ces entreprises. Et c'est ce truc-là qu'il faudrait passer. C'est-à-dire, d'une certaine manière, comment dire ça, il faudrait dépolitiser une partie des savoirs sur l'écologie, dépolitiser dans le sens que ça soit plus à ce point identifié comme des formes d'engagement, mais que ça devienne, qu'ils entrent en fait dans une sorte de culture commune en fait des citoyennes et des citoyens. Et ce qui est valable pour les journalistes est pour moi valable pour les députés, les sénatrices et les sénateurs, enfin les gens qui font la loi, parce que en fait on se rend compte que le problème il touche également. Et donc ça, pour arriver à ça, c'est là où il y a une complémentarité, tu vois, il me semble, hein, des médias, c'est-à-dire que je pense que pour arriver à ça, on a besoin d'endroits où ces arguments-là sont développés, sont expliqués, donc on a besoin de ces médias. Donc, évidemment, nous, c'est ce qu'on essaie de faire à Mediapart, mais on n'est pas les seuls. Je veux dire, Le Monde, qui pourtant est dans un autre modèle capitalistique que nous et moins pas indépendant comme nous on l'est, capitalistiquement, bah, ils ont fait sur le CETA, honnêtement, un travail de contre-expertise hyper, hyper utile et intéressant. Après, il y a eu 1000 discussions sur dans d'autres journaux, plein de sites, etc. Donc malgré tout ça, je pense que c'est important parce que ça tire quand même, ça tire d'une certaine manière l'espace public vers cet angle-là d'approche, mais les difficultés à faire passer toutes ces questions sont gigantesques.
Quelle réflexion tu as sur la notion d'effondrement qui a été beaucoup médiatisé ces derniers mois, ces dernières années, et notre question c'est justement avec cette médiatisation forte qu'on a vue aussi bien à la télé, dans des reportages, dans des grands journaux, des magazines, etc. Enfin, une grosse couverture du mot d'effondrement et de la collapsologie qui est associée. Est-ce que c'est pas étonnant à quel point le système en place est capable d'ingurgiter des notions qui pourtant devraient le mettre en doute ou en difficulté, quoi.
Bon, moi je suis assez critique de la notion d'effondrement, pas la notion en tant que telle, mais disons, non, je suis inquiète des possibles usages politiques de cette notion d'effondrement. C'est-à-dire que, à la fois, ça a été très utile d'utiliser ce terme, parce que, un peu comme la notion de décroissance, il y a quelques années, qui avait été définie comme un mot obus, qui impacte à un moment une pensée collective et qui fait comprendre à plein de gens la gravité de la situation, bah, cette notion d'effondrement avec ce côté irréversible et la violence de ce terme réussit à capturer une partie de la violence de ce qu'on vit aujourd'hui. Et finalement, c'est vrai que c'est une des difficultés historiquement des écologistes et puis de tous les gens qui critiquent ce système capitaliste, prédateur, etc. C'est comment trouver les bons mots sur le niveau de violence et de destruction qu'on est en train de vivre. Et c'est vrai que effondrement, c'est terrifiant, c'est un terme terrifiant et il a la force de l'efficacité. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'important, enfin de positif, si je puis dire. En tout cas, ça apporte quelque chose. Et je rencontre sans arrêt des gens qui sont qui grâce à cette notion d'effondrement ont compris que les changements, les bouleversements climatiques et de disparition d'espèces vivantes sont irréversibles. Ce qui est la réalité, c'est irréversible. Maintenant, toute la question, c'est comment on fait pour limiter l'ampleur des dégâts. Donc ça, c'est une chose importante. Je trouve. Enfin, faut pas. Je veux pas du tout être contre. Je veux pas nier qu'on vit une forme d'effondrement. Après, une fois qu'on a dit ça, pour moi, il y a tout un travail politique qui est absolument urgent de développer sur qu'est-ce qu'on en fait politiquement. Et donc là, pour moi, il y a toute une série de problèmes qui sont soulevés par cette notion que c'est très anthropocentré, parce que quand on parle d'effondrement, en règle général, on parle de notre effondrement à nous d'humains. Or, s'il y a des êtres vivants qui s'effondrent dans le monde, eh ben, c'est quand même les autres espèces. Ce sont les espèces animales et les espèces végétales. Et le dernier rapport de l'IPBES là, a documenté à quel point il y avait des destructions massives d'espèces et que c'est... Voilà, s'il y a des gens qui s'effondrent, c'est eux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que moi, ce qui m'inquiète un peu avec cette notion d'effondrement, c'est que elle est hyper située économiquement, socialement et géopolitiquement. C'est-à-dire, l'effondrement, ça traumatise les Occidentaux, notamment les Français, et autour de l'idée qu'on va perdre tout ce qu'on a.
C'est la marque d'un privilège, déjà.
Du coup, c'est la marque d'un privilège. Mais du coup, aussi, le risque, c'est que si on en reste à cette situation un peu de déploration et d'angoisse et d'inquiétude de perdre ce qu'on a, c'est que ça nourrisse un sentiment, une volonté de protection de soi-même, donc dans une urgence, parce qu'en plus, c'est l'effondrement. Donc, vite, il faut sauver ce qu'on a. Et que ça peut encourager des réactions de repli, d'autodéfense, de protection contre les autres, parce que du coup, tout devient menace. Enfin, si on va jusqu'au bout de l'idée de l'effondrement, bah du coup, il reste plus qu'à tout ce qu'on peut faire, c'est sauver sa maison, sauver sa maison, ses enfants, sa famille quand on en a, parce que quand vraiment c'est la fin du monde, bah du coup il y a ça, on essaie de protéger les personnes qui nous sont les plus chères. Or, dans un moment où on voit bien à quel point il y a une montée très forte des discours xénophobes, des discours hyper racistes, et que ce soit Trump aux États-Unis, c'en est la version peut-être la plus caricaturelle, mais je veux dire, à plein d'égards, en Europe, on voit, on entend plein de partis comme ça prospérer sur des discours hyper racistes, etc. Et que par ailleurs, on vit dans une société, la société française, où on accepte quand même collectivement que meurent des milliers de gens en Méditerranée sans que ça nous fasse plus, ça ne provoque de révolte contre cette indignité quoi qui est en train de se produire. Tout ça mis ensemble, moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que du coup ça ne nourrisse encore plus de volonté de se barricader dans notre petit paradis français contre les menaces extérieures, et que dans ces menaces, au bout d'un moment, il y a aussi des menaces migratoires quoi. Et donc ça m'inquiète. Et donc du coup je me demande dans quelle mesure est-ce que ça peut vraiment, cette notion d'effondrement peut vraiment nous aider à agir, enfin à penser les perspectives d'action politique collective aujourd'hui. Mais en même temps, ce qui est compliqué, je trouve, c'est que y a pas de notion vraiment facilement mobilisable alternative, parce que par exemple tous les discours autour de la transition écologique, la transition énergétique, les compensations, maintenant c'est l'économie circulaire, etc. On voit bien que là c'est une vraie alternative en termes de discours. Mais là, c'est un discours qui est très compatible avec le capitalisme, compatible avec le gouvernement, qui repose sur l'idée fausse qu'on peut toujours tout compenser, tout recycler à l'infini, etc. Et donc, du coup, là, il y a un travail. Voilà, là, il y a la nécessité d'un travail politique, de pensée, quoi, collective, pour trouver quelque chose, ou alors une manière de pas d'infiltrer mais de fissurer, de fracturer cette notion d'effondrement
et de la rendre aussi peut-être de lui donner un côté intersectionnel, de le lier à, aux autres combats.
Bah,
quoi.
C'est ça, c'est-à-dire tout à fait, c'est-à-dire bah, c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le fait que l'écologie, c'est pas que au sens environnemental du terme, mais c'est un rapport au monde et donc c'est un rapport aux autres en règle générale et c'est ça ne peut être que la volonté d'agir contre les dominations en règle générale parce que c'est voilà, c'est essayer de se défaire au maximum de des rapports de pouvoir, d'utilisation, d'exploitation, que ce soit des femmes, des minorités, des personnes racisées, des animaux, des êtres végétaux aussi d'une certaine manière si on regarde la déforestation. Et donc ça ne peut, enfin ça n'a de sens que comme ça et ça ne peut fonctionner que comme ça parce que c'est aussi dans le cumul de ces oppositions aux dominations que qu'on peut trouver des alternatives. C'est ça que je veux dire, c'est ça n'existe pas, ça peut pas exister une société qui réussirait à massivement réduire ses émissions de gaz à effet de serre par exemple, mais à la faveur d'une forme de tyrannie seuls les plus privilégiés s'en sortiraient. Je veux dire, ça fonctionnerait pas non plus du tout. Enfin, ce serait un autre système d'oppression et donc c'est absolument pas ça qu'il faut défendre. Donc du coup, voilà. Moi, cette notion d'effondrement, d'abord, il me semble elle est très française. Enfin, je la vois beaucoup moins citée dans les autres États. Enfin, je pense aux États-Unis, en Grande-Bretagne, c'est quand même beaucoup moins fort. Et moi j'ai voilà plutôt envie pas de lui opposer mais de la mixer, de l'hybrider cette notion d'effondrement avec les notions de justice environnementale, de racisme environnemental et donc là qui est tout un courant de pensée et d'action qui vient des États-Unis, du mouvement des droits civiques et qui fait le lien dans la description et l'opposition à des situations d'injustice qui sont tout autant des situations d'injustice économique, sociale, urbaine et d'exposition à des produits toxiques puisque notamment, alors c'est lié aux villes américaines où la manière dont elles sont organisées fait que dans les ghettos où on trouve plutôt des personnes pas blanches, et ben c'est plutôt là aussi qu'on va trouver soit des décharges, soit des fortes sources d'émissions de produits toxiques ou très polluants, et qu'à partir de là, en fait, ces militants, ils ont pris l'habitude de toujours partir de situations hyper concrètes. Donc hyper concrète, de lutter, on va partir de la défense d'un quartier contre une décharge, on va partir de la défense d'un jardin partagé ou d'espace comme ça commun utilisé par différentes personnes contre un projet immobilier, et on part de ça et on est hyper concret, et à partir de ça on va en développer une vision du monde, mais on part de quelque chose de très concret. Et ça, c'est peut-être l'autre chose que moi j'aimerais ajouter à cette notion d'effondrement, c'est que la vision macro à très grand terme, sur des très grandes perspectives, enfin sur de très grandes années, des très grands espaces géographiques. L'autre difficulté, c'est que elle peut aussi amener une dépolitisation dans la mesure où on reste, ça peut conduire à une vision assez abstraite finalement des choses. Et donc là, il y a l'effondrement. Et donc entre la très grande échelle et soi-même, voilà, il n'y a pas d'intermédiaire. Or, l'espace politique est dans l'intermédiaire. Et donc moi, c'est pour ça que journalistiquement et aussi à titre personnel, depuis des années, j'accorde beaucoup d'importance à ce qu'on appelle les luttes de territoire, parce que c'est du concret, c'est hyper concret, c'est des vraies situations d'injustice. Donc que ce soit à l'époque où il y avait encore le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, toute la lutte de la ZAD, moi, m'a paru absolument essentielle, à la fois pour ce à quoi elle s'opposait, mais du coup ce qu'elle créait, tout ce qui s'est créé justement en termes d'autonomie d'organisation sur la ZAD en dehors de l'État, sans attendre des représentants qui mettent enfin en place ce qu'il faudrait en termes de normes, etc., dans la plus grande liberté, la plus grande créativité possible. C'était absolument essentiel et ça reste aujourd'hui essentiel puisque la ZAD est toujours là, est toujours en train de défendre des, si possible, dans une grande difficulté autour d'elle, mais en tout cas de défendre une pratique commune commune de rapport aux terres agricoles, à la forêt, à l'habitat et tout ça. Mais par ailleurs, enfin, il n'y a pas que la ZAD qui a pris beaucoup des places dans l'espace public. Mais moi, je trouve que par exemple, tout ce qui se joue autour du triangle de Gonesse, au nord de Paris, avec la défense par certaines et certains de terres agricoles contre leur bétonnage pour y construire à la fois ce grand site de commerce et de loisirs Europa City, mais pas seulement. C'est aussi des espaces de bureaux. C'est aussi des hôtels, etc. En lien avec le développement de l'aéroport de Roissy, qui promet d'émettre énormément de tonnes de CO2. Ça, c'est voilà, ça me paraît une lutte essentielle parce que c'est sur un territoire urbain très défavorisé avec beaucoup de chômage que on prévoit encore, enfin que les autorités prévoient encore de construire un truc complètement à l'ancienne qui non seulement va détruire des terres, accélérer le dérèglement climatique, mais en plus ne fournir aucune solution viable en termes d'emploi et d'activité, même d'imaginaire pour les jeunes de ces quartiers. Donc de ce point de vue-là, voilà, c'est très intersectionnel. En tant que telle, cette lutte me paraît importante et je trouve que un autre exemple sur lequel je travaille pas mal en ce moment, qui est la question des Jeux Olympiques, donc qui se passeront en 2024, et des aménagements en fait liés à ces Jeux Olympiques, me paraît très importante parce que là, c'est au fond, on a l'événement le plus médiatique du monde avec énormément d'argent mobilisé. Qui va en partie s'organiser et se dérouler en Seine-Saint-Denis, donc dans ce territoire très défavorisé de banlieue parisienne, qui annonce et veut se présenter, enfin en tout cas à plein de déclarations d'intention sur le fait que ce seront des Jeux olympiques durables, et puis avec un héritage pour les populations puisque ce qui sera construit deviendra des quartiers, etc. Et pour autant, quand on commence à regarder, on voit bien que déjà la manière dont ça se passe va impacter des populations à des sources de pollution et va profiter à des personnes qui ne sont pas celles qui habitent aujourd'hui ces quartiers. Donc ça aussi, et on va dire, c'est pas directement strictement de l'écologie, ces questions de gentrification et de potentiel changement de population. Mais moi, en fait, si, je pense que c'est complètement l'écologie parce que c'est pas possible d'accepter la construction d'éco-quartiers qui vont bénéficier à une classe moyenne ou à une classe moyenne supérieure à la place des territoires déshérités où vivent aujourd'hui des gens qui sont rejetés par toute une partie de la société. On peut pas accepter ça parce que si on accepte ça, on accepte une écologie de privilégiés et qui est le contraire de ce qui est vraiment l'écologie. Et bon, là, c'est quelques exemples. Il y en a plein d'autres.
Est-ce que tu dirais que les mouvements écologistes, et il y a plein de nuances et je suis pas sûre que tous ces courants écologistes soient aient les mêmes objectifs et la même définition d'écologie. Est-ce que tu dirais quand même que globalement on va vers une radicalisation avec plein de guillemets
Là, ce qui est évident, c'est que depuis l'année dernière, avec l'apparition de Extinction Rebellion, enfin en Grande-Bretagne, et donc son apparition en France, et plus, qui avait précédé tout le réseau ANV COP21. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a toute une génération de jeunes qui se politisent dans des mouvements de désobéissance civile en étant prêts à être arrêtés par la police. Ça, c'est quand même une grande différence par rapport aux générations qui ont précédé, parce que les générations qui ont précédé, plutôt les jeunes qui s'engageaient, enfin, ou les moins jeunes, mais qui s'engageaient pour le climat ou pour l'écologie, c'était soit par le biais d'ONG, parfois en manifestation, mais finalement il n'y en avait pas eu beaucoup, et c'était peu en confrontation avec la police et les autorités. Là, c'est des gens qui direct se politisent en étant prêts à se faire arrêter, en se faisant arrêter, en se faisant poursuivre, puisque c'est toute l'histoire comme complètement mais ridicule des poursuites contre les personnes qui prennent les portraits, voilà, décrochent les portraits de Macron, et puis qui par ailleurs se retrouvent eux aussi confrontés aux violences policières, même si moindre jusqu'à présent que celles qu'ont enduré les gilets jaunes, parce que à ma connaissance il n'y a pas eu de personnes mutilées dans les militants écolos comme il y a eu des mutilés innombrables chez les gilets jaunes, et donc ça c'est une grande différence. Donc je pense que ça je sais pas ce que ça va donner politiquement, mais c'est sûr que au moins ça il commence avec comment on pourrait essayer de qualifier ça ? Je trouve un rapport de sincérité et d'honnêteté entre le discours et les actes. C'est ce qui a longtemps été, à mon avis, un des problèmes de l'écologie politique. C'était le décalage entre la force de la critique de la société de consommation, du productivisme, et la modestie des moyens. Je voulais rentrer au gouvernement, défendre un réformisme tempéré, pas vouloir dire des choses trop radicales pour pas être impopulaire. Et il y avait une forme de dissonance cognitive finalement entre le discours qui était tenu et la réalité des pratiques. C'est pour ça que quand a commencé la ZAD, moi ça m'a paru être hyper important parce que là pour le coup, franchement, les paroles correspondaient aux actes et les actes correspondaient aux paroles. Et ça pour moi c'est un leg majeur du mouvement de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est que tu peux plus tenir un discours d'un côté et avoir une pratique de l'autre. Et de toute façon, c'est pas intéressant de juste tenir un discours. Il faut faire les deux, le discours et la pratique. Parce que sinon, ça n'a pas de sens, finalement, ce que tu dis. Et donc, eux, je trouve, ils commencent avec, ils ont gagné ça, quoi, par rapport aux générations qui ont précédé. C'est que tu peux plus te contenter de juste petites choses. Après, la question que j'ai, c'est pas une critique, hein, parce que c'est des mouvements très jeunes. Mais la question que j'ai, c'est est-ce qu'ils vont réussir à partir de ça à développer des stratégies politiques et par exemple des revendications qui permettent d'avancer davantage, parce que pour l'instant, ce qu'on a, c'est des mobilisations massives. Donc ça, c'est hyper important parce qu'on les avait jamais eues. Des mobilisations massives, on veut avec un discours assez fort, mais très généraliste.
Oui, c'est neutralité carbone en 2025.
Voilà, et on s'en remet à l'État. Voilà. On continue de demander au gouvernement d'agir. Or, évidemment que le gouvernement ne va pas agir à la hauteur de ce qu'il faut. Donc, est-ce qu'ils vont avoir la capacité, la volonté et l'idée de trouver la stratégie pour faire l'idée pour trouver une stratégie alternative de si on s'en remet pas au gouvernement, qu'est-ce qu'on fait ? Sur ça, ça va être clé. Et à mon avis, c'est la clé des prochains mois. Et il me semble que, par exemple, de ce point de vue-là, ça pourrait être très fécond et très fort et important qui cible. Et voilà, faut cibler des pollueurs, faut cibler des causes spécifiques du changement climatique. Par exemple, en Angleterre, Extinction Rebellion. Ils sont partis au départ sur, pareil, un discours très généraliste, il faut que le gouvernement agisse. Et puis, en fait, très interpellés par plein de gens sur, non, mais attendez, vous pouvez pas demander au gouvernement de Theresa May d'agir, elle ne le fera pas. Ils ont petit à petit, ils ont spécifié. Et donc, par exemple, plus récemment, là, il y a eu une action contre l'extension de l'aéroport de Heathrow, qui est effectivement une bombe climatique en tant que telle, parce qu'en France, Extinction Rebellion, ils vont cibler l'extension de Roissy. Est-ce qu'ils vont cibler le triangle de Gonesse? Est-ce qu'ils vont s'intéresser aux différents projets de
là encore s'ancrer dans un projet et un territoire.
Oui, pour vraiment bloquer quelque chose.
Et pas être juste dans l'idée.
Et pas juste dans l'idée, et surtout pas juste s'en remettre. C'est encore une fois, ça, c'est un leg de la ZAD. C'est pour ça qu'il faut absolument les relier au leg de la ZAD. C'est pas s'en remettre à des gouvernants, à des ministres et à des élus qui, pour toutes les raisons systémiques qu'on expliquait avant, ne feront pas ce qu'il faut faire, mais commencer à faire advenir par eux-mêmes le changement qui est nécessaire. Et c'est, voilà, ça va être très important de voir comment est-ce qu'ils répondent à cette question.
Toi, enfin, sans faire de projection très précise, mais quelle est ton intuition vis-à-vis du monde qui se dessine ? Est-ce que aussi quel genre d'émotion ça te provoque travaillant là-dedans sur ces sujets depuis pas mal d'années maintenant ?
Bon, moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Donc je suis quelqu'un d'optimiste et moi je veux croire en la possibilité de changement pour le meilleur, parce que je pense que si on n'y croit pas, on n'y arrivera pas. Donc c'est en partie du wishful thinking et en partie tu vois un caractère propre de ma personne. Donc voilà, ça c'est mon point de vue situé par rapport à ça. Je me situe dans un espace optimiste et aussi parce que justement depuis une dizaine d'années, je vois à quel point des espaces alternatifs se constituent, se développent, se relient, que je rencontre de plus en plus de personnes et parfois qui a priori pourraient paraître pas tellement politisées, qui sont profondément convaincues et voire engagées dans des projets d'alternatives parfois hyper radicales au capitalisme, que ce soit autour de l'alimentation, des espèces de magasins collectifs gérés de manière collective et parfois de manière solidaire. Donc je vois, il y a énormément, voilà, il y a une sorte de poussée, je vois cette poussée très forte de plein de pratiques de solidarité et de relocalisation. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très important et c'est très bien, et je pense que il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc voilà, donc ça me paraît très important. Ce qui m'inquiète énormément, c'est le décalage entre ces pratiques sociales hyper fortes et les espèces de personnages qui arrivent au pouvoir, Trump, Boris Johnson, Jair Bolsonaro, et en France, voilà, je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans les 4 ou 8 prochaines années, mais je pense que le pire est possible en termes je pense que c'est tout à fait possible que le Rassemblement National arrive au pouvoir, et je les mets dans le même sac, c'est-à-dire de ce discours complètement néo-fasciste et hyper brutal et complètement déconnecté des réalités sociales. Et donc du coup, ce qui m'inquiète beaucoup, pour le coup, c'est la dissociation entre ces deux processus politiques, une des énormes alternatives très vivantes et créatives et qui se développent, et à côté un système où des gens qui continuent à porter au pouvoir des personnes qui portent le contraire de ces valeurs, et je pense que ça ne peut en tout cas le risque, c'est que ça provoque des conflits hyper forts. Et des conflits, je sais pas alors après quelle forme ça prendra, est-ce que ce sera vraiment des formes de guerre, de formes de guerre civile, est-ce que ça va être des situations de répression tellement plus fortes que celles qu'on vit aujourd'hui, que la société française va se retrouver complètement clivée entre les uns et les autres, ça c'est avec toutes les violences que ça pourrait engendrer, ça je sais pas, je me dis que c'est plus impossible, c'est plus un scénario de science-fiction, quoi, d'avoir comme ça des États hyper autoritaires, de plus en plus autoritaires autour de la défense des intérêts des grandes multinationales en place aujourd'hui, qui veulent rien lâcher, qui veulent pas changer, et des politiques représentants qui ont fait une forme d'alliance avec eux et qui les défendent, et que face à ça, en tout cas tout ça risque de générer beaucoup plus de violence, encore plus de violence qu'aujourd'hui. Et l'autre chose, moi, qui m'inquiète beaucoup, c'est la gestion des frontières. C'est-à-dire que je me dis, c'est plus impossible d'imaginer qu'à un moment la politique européenne de fermeture des frontières aux migrants ne se durcisse encore plus. Alors elle est déjà atrocement inhumaine aujourd'hui, mais voilà, je sais pas, on peut plus exclure que des militaires, des policiers se mettent à tirer aux frontières pour empêcher que les gens arrivent, puisqu'on laisse mourir déjà tous ces gens. Et donc je sais pas, moi, c'est comment on fait pour éviter ça, je sais pas.
Tu t'es, je crois, pas mal intéressée à l'écoféminisme. Est-ce que tu penses que ce mouvement de pensée, de pratique, peut permettre justement de faire le lien, l'intersectionnalité dont on parlait tout à l'heure, entre les différentes formes de domination, d'exploitation, et particulièrement en France, je pense que ça a du mal quand même l'écoféminisme à prendre une place médiatique et dans la pensée, parce qu'il y a un héritage fort de la pensée féministe qui a tendance à laisser croire que l'écoféminisme est essentialiste. Donc comment pousser ce mouvement médiatiquement, et puis dans les communautés, quoi.
Alors moi, j'ai découvert l'écoféminisme grâce à deux femmes intellectuelles extraordinaires qui sont Émilie Hache, qui est philosophe, et Isabelle Cambourakis, qui est éditrice, qui a créé la collection Sorcières aux éditions Cambourakis. Et je dis extraordinaire parce que pour moi, c'est une source d'inspiration qui a complètement renouvelé mon rapport à l'écologie. pour le coup. Ça, c'est à titre personnel. Et par ailleurs, je vois bien qu'il, quand même, même si ça reste une pensée minoritaire en France, rencontre un succès, mais croissant. C'est-à-dire.
Depuis quelques mois, un an, ouais.
C'est ça. Moi, ouais. Je ne cesse de rencontrer des étudiantes, des jeunes femmes qui sont portées, quoi, par cette question de l'écoféminisme.
Et aussi, autour de la figure de la sorcière aussi, qui a eu pas mal de.
Oui, oui, alors tout à fait. Il y a eu tout à fait. Il y a eu le livre de Mona Chollet, qui a diffusé comme ça massivement à un grand public, effectivement, toute cette culture, cette approche, cette manière de voir les choses. Et donc, c'est quoi cette manière de voir les choses? Pourquoi est-ce que c'est important? Bah, pour moi, c'est notamment Starhawk, qui est une sorcière anticapitaliste états-unienne et militante anti-nucléaire, militante anticapitaliste, anti-patriarcale, anti-autoritaire, et en même temps, enfin, c'est pas fait plein de anti, mais je veux dire avec une capacité à aussi inventer des mondes, une capacité infinie à inventer des mondes. Donc pour moi, c'est une grande source d'inspiration au Starhawk. Et donc pourquoi est-ce que c'est cet écoféminisme là en particulier qui me parle? Parce que c'est l'idée que puisque l'asservissement de la femme par l'homme historiquement a été intrinsèquement mêlé à l'asservissement de la nature par la civilisation humaine, les perspectives et les stratégies de libération des uns vont avec celles des autres. Et donc ça veut dire à la fois ça d'un point de vue historique et d'un point de vue de lutte, que par exemple il y a plein de ressources féministes potentielles, par exemple dans les mouvements anti-nucléaires. C'est-à-dire que quand on s'attaque au pouvoir nucléaire et quand on critique le pouvoir nucléaire, on critique une forme de pouvoir qui est la même forme de pouvoir qui a asservi les femmes, c'est-à-dire un pouvoir vertical, un pouvoir brutal, un pouvoir scientiste. Un pouvoir qui congédie sa critique, qui disqualifie sa critique, qui assume le plus peut-être une forme d'hubris, de surpuissance, puisqu'avec le nucléaire tu peux potentiellement tout détruire et tu peux potentiellement créer une énergie quasiment infinie, etc. Et donc te confronter à ça, en fait, c'est vraiment prendre très 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 au sérieux la question du pouvoir. Et donc te prendre très au sérieux aussi la question de l'antidote à ce rapport au pouvoir. Et ça, Starhawk, elle a écrit plein de choses là-dessus, elle a participé à plein de mouvements de ce type, et c'est très enrichissant. Et donc il y a toute cette dimension-là qui, pour moi, est une forme, enfin vraiment une source forte d'inspiration. Mais je dirais, il y a aussi à un niveau beaucoup plus personnel, c'est-à-dire l'autorisation à recréer pour ce qui me concerne des rapports d'intimité des non-humains. Et ça, c'est ce que je pense une partie des courants féministes, notamment en France, considèrent comme de l'essentialisme. C'est-à-dire, ah, mais donc vous réduisez la nature et la femme serait du côté de la nature, et donc c'est exactement le stéréotype machiste qu'on veut combattre. Et moi, je pense que, évidemment, dit comme ça, c'est pas du tout ce que j'ai envie de défendre, mais que il y a pas du tout que ça dans ces courants de pensée, dans ces approches. Il y a aussi la dimension hyper belle et hyper, je sais pas si c'est émancipateur, mais en tout cas c'est source de joie et de plaisir et de forme de reconnexion, de réconciliation avec le monde, que de s'autoriser à se laisser profondément émouvoir par une forêt, par un arbre, par un paysage, que c'est très important, parce que c'est une manière aussi de se remettre les pieds sur terre, les mains dans la terre, que c'est aussi de ça dont on parle, et que finalement, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de quels mots on utilise et quels seraient les bons mots à utiliser pour qualifier ce qu'on essaye de faire. Et moi, c'est vrai, je passe une partie de ma vie à essayer de trouver les bons mots, donc je pense que c'est très important. Mais c'est très important aussi à des moments de laisser les mots de côté et de laisser se réexprimer une sensibilité qui est en dehors des mots. Il y a un très beau livre, Comment la Terre s'étue, de David Abraham, qui pose cette question-là et qui montre à quel point, à partir du moment où l'humain s'est saisi de l'alphabet et des mots, finalement, ça a créé une distance au monde irrémédiable. Et donc, il ne s'agit pas d'abandonner les mots. Enfin, voilà, notre civilisation, maintenant, elle est ce qu'elle est. Mais par contre, de savoir qu'il y a eu d'autres civilisations et d'essayer de se reconnecter le plus possible à cet autre état de rapport au non-humain, moi ça me paraît capital parce que c'est pas simplement que ça réouvre ton monde et que ça change ta vision, c'est que encore une fois émotionnellement, affectivement, ça te nourrit et donc ça te donne aussi de la force de vie. Et t'as besoin de force de vie pour lutter contre la terrible puissance de destruction du capitalisme, du productivisme et du patriarcat et de toutes ces dominations. Donc c'est à la fois un truc de sensibilité, c'est à la fois un truc d'empowerment. Et de ce point de vue-là, en septembre, là, il y a un week-end féministe anti-nucléaire qui s'organise autour de Bure. Donc moi, j'attends beaucoup parce que il va essayer de se cuisiner un peu des choses autour de ses idées.
Ma dernière question, du coup, tu as déjà un petit peu répondu, mais c'est face à aux catastrophes en cours et à venir et à la peine que ça cause, comment parvenir à cultiver la joie ?
En étant ensemble. En étant ensemble, en militant ensemble. Enfin, moi, je pense que en dehors de mes enfants que j'adore, je pense que mes relations, les relations humaines les plus intenses, les plus solidaires, les plus porteuses que j'ai développées, rencontrées et connues dans ma vie, c'est les personnes que j'ai rencontrées soit sur des actions militantes, soit dans des discussions autour de la volonté commune de changer les choses. Donc ça, je pense que c'est être ensemble, les amitiés sensibles, les amitiés féministes, les amitiés écologistes, c'est absolument essentiel. Mais c'est pour ça que quand on a la chance d'avoir un réseau autour de soi de personnes vibrantes comme ça, inspirantes, c'est hyper important de garder en tête que beaucoup de gens n'ont pas accès à ça et faire le maximum pour que ces espaces soient le plus inclusifs possible et aident tous ceux qui se retrouvent tout seuls, parce que voilà, on est dans une société aussi où les gens souffrent beaucoup de la solitude, et la solitude ça ne peut que nourrir la peur de l'autre et la fermeture à l'autre et des choses très réactionnaires comme ça. Et donc il faut maintenir ces espaces qui sont ces espaces de soutien et d'amour et d'amour, en fait c'est vraiment des formes d'amour très très fortes, mais tout en gardant des sas d'ouverture aux autres. Ça c'est une autre difficulté.
Merci beaucoup.
Merci à toi pour tes questions qui sont très importantes.
Merci beaucoup à Jade Lingard pour notre conversation et merci à vous tous pour votre écoute et votre soutien. Comme pour tous les épisodes, vous pouvez retrouver sur le site présage.fr les références des livres et des personnes dont on a parlé durant l'épisode et des liens pour approfondir tous les sujets évoqués et plus encore. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Belawel mixé par Paloma Colombe. À très vite.